Le marché de l'alimentation a changé et il va changer encore et plus rapidement que jamais. Selon Claude Lafleur, ce sont les consommateurs qui vont mener le jeu.
Il y a des belles opportunités pour le secteur agricole et le secteur des pêches, mais il faudra apprendre à vivre avec une volatilité qui donne le vertige. La population va augmenter, certes, de 35 % dans les 30 prochaines années. Les revenus aussi moyens vont augmenter. La production alimentaire devra donc suivre. Pas plus tard qu'il y a 2-3 ans, on prédisait une explosion des prix agricoles, un Klondike, en raison d'une demande accrue d'ici 2050. Or, la belle tempête s'est transformée en gadou. La raison principale du dégonflement des denrées agricoles est la forte capacité de production des producteurs à répondre à des prix élevés. Donnez-leur des moyens, ils vont s'adapter, ils vont adapter des technologies dont on parlait tantôt, ils vont s'agrandir, ils vont augmenter leur productivité. La demande mondiale sera aussi moins forte que prévu, selon des chercheurs de l'Université Penn State. On aurait peut-être exagéré sur le crayon. En plus, en cas de crise alimentaire, donnée très importante, et d'une flambée des prix agricoles, nous avons d'immenses réserves alimentaires. D'abord parce que nous produisons du biodiesel. 9 % de tout ce qui se produit en grains s'en va dans le biodiesel. Si on est vraiment en crise, ça peut se convertir. Même chose, si jamais les prix augmentent beaucoup, les grains destinés aux aliments pour animaux qui vont aussi diminuer. 36 % de ce qu'on produit s'en va aux animaux. Et le dernier, c'est le gaspillage dont tout le monde parle. 25 % de ce qu'on produit est un peu gaspillé. On a des réserves. Bref, on peut s'attendre à une demande en croissance, des opportunités de marché intéressantes, surtout en exportation, mais des prix volatiles et surtout jamais des prix agricoles élevés, surtout sur de longues périodes. Dans les grandes tendances, il faut noter aussi une certaine bifurcation de la demande vers les produits sains, dits non industriels, qui causent une grande tension dans le système. Les consommateurs recherchent des produits sains, nutritifs et abordables, en gardant en tête, bien sûr, que les prix doivent être compétitifs. Chose certaine, il y a un engouement. L'industrie écoute, on la voit s'engager plus ou moins maladroitement dans ce chemin, plus par marketing que par conviction profonde, remarquez bien, mais elle s'engage. Les grandes chaînes de restaurants, McDonald's, les rôtisseries Saint-Hubert, Tim Hortons, certains détaillants exigent l'élevage en cage enrichie, une production sans OGM, sans hormones et sans antibiotiques. Cette tendance est lourde et tout le monde s'en réjouit peut-être, mais elle ajoute au coût de production sans nécessairement générer un prix plus élevé pour les producteurs. Autre point de rupture majeur, donc, le pouvoir des consommateurs qui augmentera beaucoup au cours des prochaines années. Et d'où vient ce pouvoir? Nous sommes au 21e siècle, l'information est partout, le réseau est universel, global. Brancher 15 heures par jour à un téléphone intelligent par commande vocale, on a accès à une encyclopédie mondiale. On peut communiquer, publier une opinion, acheter, vendre. Il y a plusieurs multicanaux, il y a l'épicerie du coin, il y a le dépanneur. Et grâce aux applications sur le téléphone, achat en ligne, achat direct, accès aussi à la production locale. Pour les entreprises plus conservatrices, cachetières, c'est le téléphone intelligent est une arme de destruction massive. Résultat, on note un déplacement du rapport de force. Le centre de gravité du pouvoir économique et politique se déplace. Dans les années 70, avec la puissance du syndicalisme agricole, le centre de gravité était dans les mains des producteurs qui pouvaient dicter, d'une certaine manière, leurs conditions aux transformateurs, puis aux détaillants. Ça n'a pas duré longtemps. Les transformateurs ont pris la relève, mais là aussi, ça fut de courte durée. Dans les années 90, ce centre de gravité est progressivement passé aux mains des grands détaillants. C'est encore le cas aujourd'hui. La progression fulgurante de Walmart et d'Amazon Fresh en sont des illustrations éloquentes. Mais plus pour très longtemps. Dans quelques années, je suis convaincu que le pouvoir se déplacera directement vers le consommateur.
Le pouvoir qu'avaient les agriculteurs leur a, pour beaucoup, glissé des mains.
Airbnb est le plus gros hôtelier au monde. Il ne possède pas un seul hôtel. Pas un seul hôtel en propriété. C'est une plateforme numérisée, un club de rencontres sophistiqué entre le propriétaire et le client. Uber, le plus gros opérateur de taxi au monde, pas un seul taxi. Quand on y pense, là, les plans conjoints d'agriculture il y a 40 ans, c'était une forme de plateforme 1.0 organisée bien avant tout le monde. Nous étions à une certaine époque le plus gros producteur de lait, le plus gros producteur de volaille, le plus gros producteur de porc en Amérique. Mais nos plans conjoints n'ont pas vraiment pris le virage numérique, les filières non plus. Il n'y a pas de protocole de partage et peu et pas de données libres et accessibles pour les développeurs d'applications. L'avenir de nos organisations, de nos sociétés et de nos entreprises se trouve dans le savoir, dans la compétence et dans l'interprétation de millions et de millions de données. Des investissements massifs seront nécessaires dans cette matière et c'est à méditer. Le monde selon Trump, c'est un film plein de suspense et d'angoisse à l'affiche depuis le 20 janvier dernier sur des milliers d'écrans et toujours d'actualité. On ne rigole pas avec l'imprévisibilité, l'instabilité, la folie des dirigeants. Pour le Québec et le Canada, les traités commerciaux qui dictent les règles du jeu, autant dans l'ouverture que dans la protection, sont et demeurent incontournables. Une relation commerciale saine est incompatible avec des décisions populistes et le repli sur soi, c'est incompatible avec des traités commerciaux. La gestion de l'offre sera sur la table, encore une fois, et elle aura sans doute encore à faire quelques concessions pour assurer sa survie. J'ajoute que si Trump diminue les impôts, augmente les dépenses militaires et en infrastructure, et que le Congrès ne l'arrête pas sur les baisses de dépenses qu'il veut faire dans les autres secteurs, il faut prévoir une augmentation de l'endettement américain et par conséquent de l'augmentation du taux d'intérêt. Ce n'est pas une très bonne nouvelle pour nos entreprises fortement endettées. Je pense sincèrement que la réalité va finir par rattraper les Américains. Ils vont frapper un mur et à un moment donné, ils vont montrer la porte au clown en chef, mais en attendant, on risque de payer le prix.
Bien sûr, les grands distributeurs, les entreprises commerçantes, imposent toujours leurs conditions. Selon l'agroéconomiste Claude Lafleur, c'est pour cela qu'il faut que l'État s'implique.
Pour faire face à la volatilité des prix et aux humeurs changeantes, les fournisseurs, les transformateurs et les détaillants vont resserrer encore davantage leur chaîne d'approvisionnement. Vous n'avez rien vu. De façon à assurer leur approvisionnement, à assurer la solubilité des aliments, la traçabilité, etc. L'intégration verticale à grande échelle se poursuit. Bayer, Monsanto, ensemble, travaillent sur une fusion de 66 milliards. Potash Crop Agrium, 30 milliards. ChemChina, Syngenta, 43 milliards. DuPont d'Or, 68 milliards. Ce ne sont pas des investissements dans de nouveaux produits ou de nouvelles capacités productives, mais plutôt une manière de restructurer leurs actifs et d'avoir un plus grand contrôle sur le marché. C'est pour ça qu'ils font ces fusions-là. Agropur, la Coop fédérée, malgré leur taille considérable et leur succès, font figure de nain sur la scène internationale. Dans un tel contexte de consolidation, les producteurs pêcheurs, aussi bons et aussi efficaces soient-ils, aussi arrogants soient-ils, individuellement, n'ont pas beaucoup de pouvoir de négociation. Sans regroupement, sans rapport de force, ils risquent de devenir les pauvres innocents au bout de la chaîne et nous sommes condamnés au Québec à travailler ensemble, d'où la nécessité de l'intervention de l'État comme moyen de contrer les imperfections du marché et d'agir comme régulateur et même comme contre-pouvoir au pouvoir abusif de certains entrepreneurs, individuels et collectifs, d'où le maintien des plans conjoints et d'une gestion de l'offre moderne comme plateforme 2.0 pour regrouper l'offre, pour affronter la consolidation exponentielle et pour reprendre le dialogue avec les consommateurs. D'où le soutien à des filières capables de résister et même d'affronter sur leur propre marché les multinationales américaines et européennes. Comment réagir à tous ces bouleversements? Je pose une question qui choque, juste pour le bénéfice de le faire. La possession à tout prix de la terre et du quota qui dope l'endettement, la vie durant, est-ce que c'est aussi nécessaire? Il faudra investir au moins 20 milliards de dollars dans le secteur agricole au cours des prochaines années pour actualiser et moderniser les actifs. Il faudra faire attention à nos jeunes entrepreneurs, car ces derniers, qui sont au cœur de cette révolution en cours, auront besoin de capital investissement, de ressources, d'applications informatiques, de programmes novateurs, d'une communauté de mentors et de conseillers et de la générosité de nos institutions. En raison du fait que les technologies décuplent la capacité de gestion et de productivité de ces jeunes allumés, on risque de se retrouver ou de développer une génération de jeunes entrepreneurs qui s'ennuient parce qu'ils n'ont pas accès aux capitaux, parce qu'ils n'ont pas accès à la technologie, parce qu'ils n'ont pas accès aux quotas, qu'ils n'ont pas accès à la terre. La relève ne travaillera pas pour un modèle d'affaires dépassé. Elle travaillera pour une entreprise bien de son temps et offrira un potentiel élevé.
Et le Québec dans la grande mouvance de l'agroalimentaire? Eh bien, conclut Claude Lafleur, s'il joue bien ses cartes, il peut développer encore une agriculture diversifiée et prospère.
Depuis 35 ans, j'entends des esprits chagrins nous dire que le bioalimentaire du Québec n'est pas assez jazzé, pas assez de formation, pas assez de recherche et d'innovation, pas assez audacieux, trop petit, trop endetté, trop conservateur, trop attaché à une gestion de l'offre dépassée, trop pompé par l'UPA, trop anesthésié par les programmes gouvernementaux. Pourtant, nous avons l'agriculture plus diversifiée que jamais dans un monde qui vise justement l'uniformité. Nous avons l'ébauche d'une agriculture unique, différente, singulière, à l'intérieur de l'espace canadien et nord-américain. Toute proportion gardée, les fermes québécoises sont les plus rentables au Canada. Le Québec affiche un A aussi pour le nombre de jeunes qui choisissent l'agriculture comme métier. Ce n'est pas des gros chiffres, on s'entend, mais c'est la meilleure performance nationale. Les fermes du Québec affichent le taux le plus élevé d'exploitants agricoles à plein temps au Canada. Les fermes québécoises sont aussi les plus vertes. Pratiquement 3 fermes sur 4 ont un plan environnemental bien établi au Québec. À 72 %, c'est la meilleure performance nationale. C'est aussi ici qu'on retrouve le plus grand nombre de fermes bio, 30 % des fermes canadiennes. Dans le secteur animal, on transforme 70 % de tout ce qu'on produit. C'est des multiplicateurs économiques incroyables. Compte 30 % pour le reste du Canada. La balance commerciale est même positive. Question finale, ne pourrait-on pas renforcer ces attributs, cette différenciation, par des acteurs privés et publics qui soutiennent cette vision, par une politique bioalimentaire bien articulée, plurielle, nordique, courageuse, bien dotée financièrement? Chose certaine, on n'a pas les moyens de manquer notre coup cette fois-ci. Nous disposons d'une classe d'entrepreneurs intéressante, petits, gros, ouverts à la formation, à l'innovation, qui sont au travail. Ils sont là, ils réfléchissent et ils amorceront bientôt une autre phase de transition et de croissance. Malgré le risque, malgré les incertitudes, je les sens toujours prêts à se lancer dans de nouvelles aventures. Ce sera fascinant.
Ici Lionel Levac. Je pense que sombrer dans le confort et l'indifférence serait la pire des erreurs. L'autre erreur, selon moi, serait de penser que les seuls changements de la part des autres partenaires suffiront à assurer un bel avenir à notre agroalimentaire. Oh que non! Tous devront contribuer aux nouvelles assises du secteur. Les changements ne peuvent pas n'être que cosmétiques. Reste maintenant la tenue du grand sommet sur l'alimentation, l'automne prochain, après quoi le ministre Laurent Lessard doit édicter la nouvelle politique bioalimentaire du Québec. Au revoir.